Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, ce premier dimanche après Pâques, appelé dimanche in albis, dimanche blanc, en mémoire des baptisés qui autrefois déposaient la veille leurs vêtements blancs, vêtements reçus lors de leur baptême à la veillée pascale, aujourd'hui donc, nous entendons dans l'Épître non pas la voix de saint Paul, mais celle de saint Jean, disciple bien-aimé de notre Seigneur. Commentons donc cette épître, qui est bien riche d'enseignements, pour en tirer deux leçons pour la conduite de notre vie spirituelle après Pâques. La première, à laquelle nous allons nous attarder un peu plus, concerne la foi, qui est pour nous une force infiniment puissante. Et la deuxième leçon, regardons la source, la triple source de la vie surnaturelle, source qui coule constamment, qui arrose la terre desséchée de notre âme. Ce sont les trois sacrements, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. La première leçon, la plus étendue de notre épître, est la foi. La foi. La toute première phrase que nous y lisons devrait bien marquer notre esprit, notre attention. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et ce triomphe sur le monde vient de notre foi. On a l'impression de voir, des yeux de saint Jean, comme une formidable armée rangée en bataille, ou plutôt celle qui vient de remporter une grande victoire. La victoire qui triomphe sur le monde, c'est notre foi. Phrase pleine de fierté. Et pourtant, quand notre évangéliste écrit ces mots, le christianisme compte à peine une poignée de fidèles, et en plus, persécuté à la fois par le paganisme et le judaïsme. Nous avons donc deux forces, deux armées rangées l'une contre l'autre, s'opposant l'une à l'autre. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort les a magnifiquement dépeintes dans sa lettre circulaire aux amis de la Croix. Écoutons-le. À gauche est le parti du monde, lequel est le plus nombreux, le plus magnifique, du moins en apparence. Tout le plus beau monde y court. On y fait presse, quoique les chemins sont larges. Ils sont jonchés de fleurs, bordé de plaisirs et de jeux, couvert d'or et d'argent. Disons, très sympathique. À droite, continue le père de Montfort, le petit troupeau, qui suit Jésus-Christ, ne parle que de pénitence, d'oraison et de mépris du monde. Un peu moins sympathique. Et ce petit groupe s'encourage. Si Dieu est pour nous, en nous et devant nous, qui sera contre nous. Il n'y a que des courageux et violents qui ravissent le ciel de vive force. Combattons donc avec force, afin que nous gagnions la couronne. On peut dire, on peut ajouter, que le monde, c'est-à-dire cette puissance humaine qui s'oppose à l'accomplissement de la volonté de Dieu, ce monde donc inspire plusieurs sentiments. La vengeance, la haine des ennemis, l'amour des richesses et des commodités de la vie. La foi des chrétiens leur inspire des sentiments contraires. De pardonner les injures, d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. La foi animée par la charité nous soutient dans nos traverses, nous console dans nos peines, nous fortifie dans nos souffrances et nous propose des biens certains est d'un prix infini, la joie, le bonheur éternel au ciel. Elle peut tout, cette foi, avec Jésus-Christ, qui est toute sa force. Précisons tout de suite pourquoi la foi donne une telle force devant le monde, et pour ceux qui ont une foi solide qui imprègne toute leur vie. Tout cela pour trois raisons. Premièrement, la foi nous fournit le vrai savoir. Elle nous fournit le vrai savoir. C'est par elle que nous triomphons des fausses doctrines, de tout ce qui s'élève contre la vraie science de Dieu. Deuxièmement, la foi met à notre disposition les richesses spirituelles. Aussi nous est-il facile d'échapper aux séductions des biens d'ici-bas. Enfin, troisièmement, la foi nous communique un élan conquérant, une sorte de force secrète qui nous rend vaillants dans les épreuves de cette vie. Mais revenons à Saint Jean et à son épître d'aujourd'hui. Au sujet de la foi de cette poignée des premiers chrétiens, il n'en parle pas comme quelqu'un qui aurait peur de son ombre. Non, il parle avec assurance, assurance de la victoire. Oui, on peut triompher du monde, de ce colosse qu'on voit en face, puisqu'on est en possession d'une arme victorieuse, arme merveilleuse, miraculeuse. Quelle est cette arme? La foi au Fils de Dieu ressuscité. La foi au Fils de Dieu ressuscité. Cela nous fait penser au jeune David, s'avançant avec sa fronde au-devant du géant Goliath et lui disant « Tu viens avec l'épée et le bouclier, mais moi, je viens au nom du Seigneur. » Et pourtant, ce Goliath était une véritable tour vivante. 3,40 mètres de hauteur, s'il vous plaît, revêtue d'une cuirasse d'écailles pesant 70 kilos, impénétrable aux flèches et aux coups d'épée. Sa tête était protégée par un casque de bronze. La hampe de sa lance était aussi grosse qu'un mât de navire. Et la pointe en fer pesait 8,5 kilos. Et malgré tout, une pierre a suffi, lancée avec la fronde, tout au front de Goliath, pour renverser ce cuirassé, ce blindé vivant. Quand l'Écriture sainte parle de David, elle dit qu'il était beau à voir, beau à voir. Ou plutôt, il faudrait peut-être dire que son regard était beau parce qu'il avait les yeux fixés sur Dieu dans un acte de foi intense qui illuminait tout son être. Et nous aussi, chers fidèles, grâce à la foi au Christ ressuscité, nous dompterons le monde, aucune puissance mondaine, aucun Goliath ne pourra nous vaincre. Après David, sautant 1000 ans environ, et jetant un regard sur les 3 premiers siècles du christianisme, les empereurs, de nouveau Goliath, ont tout fait pour étouffer, écraser dans l'œuf, le petit troupeau de la chrétienté. Les camps de travaux forcés, les tortures, le lion, le glaive, et jusqu'à la mort de la croix, tout un éventail de moyens à faire fléchir, à faire apostasier les nouveaux David. Et tout cela presque sans résultat. Et même les enfants, ont offert volontairement leur vie pour la foi. Justement, l'exemple le premier venu, si on regarde nos missels, l'église de station ce dimanche est celle de Saint Pancras. Saint Pancras, mort martyr à l'âge de 14 ans lors de la persécution de Dioclétien à Rome. Le jeune garçon est dénoncé comme chrétien. Il comparaît devant l'empereur qui essaie de le faire réfléchir, de ne pas faire de bêtises. Sinon, il serait forcé de faire subir à Pancras la peine capitale. Peu importe son jeune âge et les liens d'amitié entre leurs familles. Bien que je sois enfant par le corps, répond le garçon, je porte cependant en moi le cœur d'un vieillard. Et grâce à la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ, la terreur que vous m'inspirez ne m'épouvante pas du tout. Et l'empereur, se voyant vaincu par un enfant de 14 ans, le fait alors décapiter. C'était en 304. Mais, remarque importante, pour que la foi puisse porter de tels fruits, de vaincre le monde, de soutenir ses attaques, de mourir en martyr, il faut quelque chose de plus que notre foi chétive, anesthésiée, foi paresseuse, foi peureuse. Avec cela, nous aurions du mal à repousser un Pékinois, un petit chien. Notre foi est inerte parce qu'elle s'arrête à notre intelligence, à ce paquet de questions-réponses de notre catéchisme, appris une fois pour toutes à l'école. Non, ce n'est pas suffisant. La foi, après notre esprit, notre raison, doit saisir notre volonté, notre cœur. Elle doit pénétrer toute la vie de l'homme. Est-ce notre cas ? Peut-être pas toujours. Assister pieusement le dimanche à la messe, réciter de tout son cœur le credo que je reconnais Dieu comme mon maître, mon sauveur. Et puis, une fois rentré à la maison, la semaine dans mon travail, j'ai tout un autre credo, credo du monde, où, en pratique, je reconnais que c'est le monde qui est le maître de mes pensées, de ma volonté, de mon cœur. Croire comme il faut, c'est attendre de Dieu le déroulement de notre vie. Ou plutôt, c'est coopérer avec lui en lui laissant la première place. L'apôtre Saint Jacques écrit « Que servira-t-il à l'homme de dire qu'il a la foi s'il n'en fait pas les œuvres ?» La foi qui n'est pas accompagnée des œuvres n'est plus qu'une foi à l'état de cadavre, car, toujours Saint Jacques, elle est morte. Quand un homme n'exerce plus les fonctions vitales, quand il ne bouge plus, qu'il ne parle plus, qu'il ne respire plus, on ne dit pas qu'il est vivant, mais qu'il est mort. Ainsi, la foi qui ne produit pas des œuvres de vie éternelle est réputée morte. Voilà un christianisme du dimanche qui se contente d'un programme minimum ne vaincra jamais le monde. Même plus, il ne pourra à la longue s'y opposer, persévérer, se préserver de son influence. Un tel christianisme festif sera balayé par le monde. Voilà pour la foi, foi vive et vivante, foi opérante, qui, telle, peut triompher du monde. Et puis notre épître fait allusion à un triple fleuve de grâce lorsqu'elle dit « Il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. » L'esprit, l'eau et le sang. Par ces mots sont désignés les trois sacrements de Pâques que les nouveaux convertis recevaient pendant la vigile pascale. Baptême, confirmation, qui à l'origine suivait le baptême, et la Sainte Eucharistie. Source continuelle de grâce dans notre vie spirituelle. Ne pensons pas, chers fidèles, que ces trois sacrements, une fois reçus, n'ont plus d'effet. Non. Même les sacrements qu'on reçoit une fois dans notre vie, baptême, confirmation, ont un effet durable. Le baptême nous fait enfants de Dieu, et on reste toujours enfants de Dieu. Par la confirmation, on devient soldat, martyr de notre Seigneur, et on le reste toujours. Le Saint-Sacrement de l'autel nous donne la plénitude de vie, la source, l'auteur de vie. Elle nous unit à la croix du Sauveur, pour toujours. Ces sacrements agissent toujours sur nous, à condition de ne pas se couper de ces sources, et qu'on en par le péché mortel. Heureusement, nous avons le sacrement de pénitence, sacrement de rattrapage, qui ressuscite les autres sacrements, qui fait couler de nouveau les grâces. Que donc surtout la confession, la communion pascale, marque en nous un renouveau, peut-être la résurrection de notre vie chrétienne. Et nous saurons si nous sommes bien ressuscités, si nous donnons les preuves de notre résurrection spirituelle, tout comme notre Seigneur a donné des preuves de sa résurrection corporelle. Il l'a prouvé d'abord par l'aspect. Voyez mes mains et mes pieds. Voyez. De même, nous prouverons que nous sommes vraiment ressuscités dans notre âme par l'aspect de la sainteté. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, quand notre foi, foi bien vivante, transparaîtra dans nos bonnes œuvres. Notre Sauveur a témoigné de sa résurrection aussi par le toucher. Palpez et voyez qu'un esprit n'a pas de chair. Palpez. Nous témoignerons de notre résurrection spirituelle aussi par le toucher, mais un toucher spécial, par le toucher de l'adversité, quand nous serons prêts à tout supporter pour gagner le trésor au ciel. Enfin, c'est par ces mots, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Parole dite à ses disciples, qui avaient du mal à croire, que Jésus-Christ donna la preuve de sa résurrection, preuve par le goût. Et c'est par le goût, mais toujours un goût spécial, c'est par le goût vers les choses spirituelles que nous prouverons la réviviscence de notre âme. Par la recherche des joies profondes, joies durables, fruits habituels d'une communion bien faite, parce que préparée, suivie d'une sérieuse action de grâce. Fruit de la prière, de l'oraison, du chapelet médité. L'aspect, le toucher, le goût. Que Notre-Dame, gardienne de la foi, médiatrice de toutes les grâces, donc alors aussi des grâces sacramentelles, nous aide à porter, pendant ce temps pascal et au-delà, de bons fruits, fruits abondants, fruits éternels. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.